Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Catherine Armingeon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine.
Oui, oui.
Vous avez, avec Béatrix Saul, directrice générale de Versailles, été commissaire de la magnifique exposition que nous avons été très nombreux à avoir la chance d'aller admirer à Versailles, qui a duré 5 mois. Elle a donc fermé le 3 avril dernier. Et elle se situait dans les salles d'Afrique et de Crimée du château de Versailles. Et elle s'intitulait « Science et curiosité à la cour de Versailles ». C'est à plusieurs titres que je vous ai demandé de venir à l'antenne de l'Union rationaliste ce dimanche, parce qu'il s'agit évidemment d'une exposition sur les sciences et que la médiation des sciences, surtout quand elle... sont ces médiations d'une telle qualité, se doivent toujours d'être relayées. Et d'autre part, parce que cette exposition était, selon moi, particulièrement savoureuse, tant sur le plan conceptuel que sur le plan muséographique. Donc je voulais, avec vous, reparcourir cette exposition, évidemment tristement fermée aujourd'hui, mais dont il nous reste la publication qui l'a accompagnée. Première question peut-être sur le titre de cette exposition que vous avez sans doute eu beaucoup de plaisir à composer, à créer, « Science et curiosité à la cour de Versailles ».
Comme toujours, un titre demande de réflexion, ne vient pas forcément du premier coup, vous l'imaginez très bien. Les sciences, effectivement, ça ne posait pas de problème, mais sciences tout court, c'était un peu court. Et il fallait aussi une notion qui mette en jeu, et c'était normal, la cour dans le sens large, c'est-à-dire les lieux et les gens, qui, tout autour du roi et de sa famille, et du gouvernement et de l'État, constitue cette espèce de monde qu'aujourd'hui, peut-être, on a encore un petit peu de mal à comprendre, mais oui, qui est une vraie réalité de l'histoire et de la vie de ces siècles de l'Ancien Régime, en l'occurrence. Curiosité, effectivement, parce que, vous l'avez d'ailleurs sûrement pensé, qu'il y a un lien avec ce que l'on appelait autrefois les cabinets de curiosité.
Bien
c'est
sûr.
Cet intérêt de beaucoup de personnes, de grands de ce monde, parce qu'effectivement, avoir un cabinet de curiosité, c'était d'avoir des moyens de pouvoir l'avoir et de collectionner, rassembler des objets qui, curieux par leur rareté, curieux par leur beauté, mais curieux aussi parfois par un côté inattendu et qui demandait un peu de recherche et un peu de réflexion. Donc c'est cette continuité de la curiosité humaine, en l'occurrence, qui continue et qui va devenir aussi, pas le nerf de la guerre, mais un nerf de la guerre pour les sciences, leur développement, leur intérêt, la prise en compte aussi par le pouvoir royal, puisque vous le savez que Louis XIV n'était pas un scientifique.
Mais contrairement à Louis XV et à Louis XVI.
Oui, mais il les a précédés. C'est lui qui a lancé le mouvement quand même. Et donc, c'est aussi lui qui a fait la création de cette Académie des sciences, célèbre Académie des sciences, la première du genre, dans les années 1667, en demandant à son ministre Colbert de rassembler les scientifiques qui travaillent sur différents sujets, que désormais pensionnés, c'est-à-dire payés, ils devaient travailler et que leurs sciences servent à l'État, à son pouvoir, évidemment, au pouvoir royal, ça, on ne peut pas le nier, mais également que tout cela soit rassemblé et qu'ils avancent sur leur recherche de façon sans doute peut-être un peu plus confortable, puisqu'ils étaient pensionnés par le roi, comme je vous le disais.
Alors oui, cette exposition montre de façon très pertinente, me semble-t-il, à la fois le rapport du pouvoir à l'institutionnalisation de la science à travers les académies et la création de l'Académie des sciences. L'exposition le montre très bien. Et puis aussi, ce que l'exposition montre admirablement, c'est les différents objets curieux, provoquant l'admiration, l'étonnement, mêlant justement l'institutionnalisation de la science et puis des objets curieux.
Oui, enfin scientifique en tout cas. Mm-hmm. Il est évident que, et vous l'avez dit tout à l'heure, que Louis XIV a institué la science. Louis XV était déjà un scientifique. Il a reçu une formation grâce au régent, puisque tout petit, les rois ne régnaient pas. Mais Philippe d'Orléans, le régent, était un personnage très intelligent, cultivé, et qui a sûrement donné une formation excellente à Louis XV, qui a été vraiment, c'est peut-être un peu aussi une partie de révélation de cette exposition, c'est l'intérêt de Louis XV pour la science et pour un tas de sujets scientifiques. Puis Louis VII, on connaît mieux son aspect, mais ces deux rois, donc, tout au long du XVIIIe siècle, comme vous le voyez, ont eu un intérêt plus que certain, et cette exposition le montre très bien. Vous parliez des objets, évidemment. Les objets, c'est pas facile de retrouver des objets, puisque la Révolution, vous le savez, est passée par là, et ça a été une vraie chasse, une chasse à l'objet, hein, faut bien le dire, pour arriver à retrouver ces objets dans différentes institutions, là où ils se trouvent, dans des musées, et d'arriver à les regrouper, c'était assez compliqué, d'autant plus que certains sujets scientifiques n'ont pas d'objets anciens qui pouvaient être exposés. Donc, mais c'est évident que les objets sont là pour faire vivre cette science et la faire comprendre au travers de ce siècle, puisque finalement c'est un grand long siècle que l'on a exposé.
Alors, oui, c'est ça, c'est un long siècle, puisqu'on part de Louis XIV et que l'exposition s'arrête avec Louis XVI. Donc,
à la fin de Louis XVI,
oui, à la fin, exactement.
Le moment
à la
Versailles n'est plus Versailles.
À la Révolution. Alors, ce qui m'intéresse aussi d'expliquer avec vous, de mettre en lumière, c'est ce plan très intéressant et très réfléchi de l'exposition, parce que, justement, ce qu'il m'a semblé, c'est que vous avez déployé, salle par salle, différents aspects de la science. Si je peux les reprendre un à un, d'abord les lieux de la science à Versailles.
Bah, d'arriver à montrer partout qu'il s'est passé des choses dans des endroits même un peu inattendus. Les essais de maquettes de bateaux sur le Grand Canal, bon, effectivement, on n'y pense pas. Quand on voit le Grand Canal, on ne pense pas qu'il y a eu des essais de technique et technologie à cet endroit-là.
Alors là, vous avez réussi quelque chose d'extrêmement spectaculaire et d'extrêmement agréable à voir. Je pense à cette première salle, la salle numéro 1.
Donc le film en 360, sans couture, c'est une grande première, ça n'a jamais été fait.
Comme si justement, à l'occasion de cette exposition, Versailles redevenait un lieu d'expérimentation et d'avancée scientifique. Et je crois que c'était
voulu, et vous avez parfaitement compris qu'à l'occasion de cette exposition sur les sciences, il était de fait de faire une création scientifique, et ce film en 360 que vous avez vu est une création à la mesure d'aujourd'hui et de ce qu'on peut faire en matière de cette technique, et le sujet se prêtait fort bien à cette réalisation qui est vraiment une première du genre.
Oui, alors ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que cette exposition était non seulement passionnante d'un point de vue scientifique, mais qu'elle était aussi extrêmement belle d'un point de vue esthétique ou muséographique et très spectaculaire, notamment cette première salle où on pouvait voir dans cet écran de 360 degrés les différents lieux où s'était passé
quelque chose, un événement un événement ponctuel où se passaient de façon permanente certaines activités, les cabinets, l'hôtel des menus plaisirs qui était le lieu, enfin, l'école si on peut dire des princes où ils recevaient leurs cours par exemple.
Et vous avez aussi poussé le luxe grâce à la technologie d'aujourd'hui de réinventer par des images de synthèse certains lieux que nous n'avons jamais pu voir jusqu'alors. Je pense à la ménagerie du roi et qui grâce à la technologie moderne.
C'est un grand moment de l'exposition, c'est un grand moment de restitution historique. Et c'est aussi, ça met bien en valeur cet outil formidable qui est le virtuel, la reconstitution d'éléments, d'œuvres, de rassemblements d'œuvres, de décors, d'architecture, aujourd'hui disparues et que les technologies d'aujourd'hui nous permettent de restituer dans une compréhension totale et voire belle même. Parce que je pense que, comme vous l'avez souligné, la restitution du petit château de la ménagerie, qui était au bout du bras sud du Grand Canal, était un joli petit château et qu'on le revoit parfaitement bien sur ce film qui le restitue en entier.
Et même, on se demande toujours, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je vois? Quel est le statut de cette image?
La fiction, là.
Elle devient extrêmement complexe. Alors, le deuxième thème de l'exposition, qui était l'objet de la salle 3, c'est Versailles comme lieu d'application des sciences. Et alors, vous avez montré très bien à quel point la construction même du château de Versailles a nécessité une mise en place scientifique complexe, des ingénieurs, des techniciens, des
surtout pour les nivellements, le creusement du Grand Canal et l'amener des eaux aussi, toute la technologie reprise d'ailleurs des ingénieurs des mines en l'occurrence, puisque c'est l'assèchement, enfin le mécanisme nécessaire pour assécher les puits de mines qui a été mis à profit pour et développé bien évidemment et mis au point pour arriver à faire monter cette eau de la Seine jusqu'au niveau de Marly et de Versailles.
Exactement. Les salles 4 et 5 concernaient l'expérimentation des sciences à Versailles, donc tout ce qui concerne la zoologie, la médecine, la botanique et l'apothicairerie.
Absolument, il y avait une apothicairerie à Versailles.
Voilà, donc ces salles étaient muséographiquement aussi.
Je pense que le rôle de la ménagerie, vous l'avez souligné, non seulement cette restitution qui est très belle, mais aussi l'intérêt que l'on... on avait la chance finalement que les animaux arrivaient à la ménagerie. Certains crevaient assez vite.
Oui,
Le rhinocéros, lui, il a tenu le coup
jusqu'à la Révolution.
Absolument.
C'est un mauvais coup de sabre révolutionnaire.
En revanche, beaucoup mouraient très vite. Il y a eu un éléphant, le fameux éléphant, et qui est mort assez vite, il faut le dire. Et là, cette grosse bête a toujours... quand elle est morte, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Il faut absolument le disséquer, enfin,
oui.
En tout cas, voir. Donc, Duvernet a été chargé de faire ça. Le roi Louis XIV a dit qu'il va se rendre à la ménagerie pour assister à cette opération.
Oui.
Et il arrive et demande, mais où est donc Monsieur Duvernet ? Et on attend, on regarde. Et au bout d'un certain temps, Monsieur Duvernet surgit des entrailles de la bête où il était en train d'étudier de près, c'est le cas de le dire,
l'intérieur
de cet animal, d'où curiosité revient là aussi.
Oui, formidable. Bon, vous avez consacré toute une salle à l'éducation des princes,
très,
justement.
Très importante, ça, très importante.
Oui, et à tous les objets pédagogiques utilisés pour instruire les...
Avec le rôle de ce célèbre abbé Nollet, ce curieux personnage qui, scientifique, s'intéressant à l'électricité, aux expériences de physique et autres, qui a écrit un nombre assez conséquent d'ouvrages sur ces sujets, illustrés par des gravures. Et des instruments qui servaient à ces démonstrations. Il faisait des démonstrations d'électricité ou d'autres, électricité statique, hein, s'entend, dans les salons. Puis de salon en château, il est arrivé à Versailles. On lui a octroyé même un cabinet tout à côté des grands appartements où il faisait ses expériences devant les membres de la cour. Et on sait même que la femme de Louis XV, la reine Marie Leszinska, après la messe, passait et venait voir Monsieur Nollet dans son cabinet pour voir les expériences qu'il était en train de mener. Par ailleurs, ce même abbé Nollet avait un côté éducatif, non seulement dans les salons et la cour, mais également a fait faire des fabrications d'objets scientifiques, de ces mêmes objets, pour les collèges des jésuites, le collège de Tours, le collège de Dijon. Et ce sont d'ailleurs des instruments provenant de l'ancien collège de Dijon, des jésuites de Dijon, qui sont exposés là, que vous avez pu voir dans l'exposition.
Oui. Une salle montre extrêmement bien, la dernière salle, un lieu de démonstration des sciences. Et précisément, venir être présenté, qu'une exposition, qu'un objet soit présenté à Versailles, valait reconnaissance.
Absolument. Et même entraîner sans doute une aide financière par la suite.
Bien sûr.
Et avons terminé l'exposition sur un certain nombre de présentations ou de démonstrations qui ont eu lieu. La plus ancienne est la fameuse démonstration du miroir ardent sous Louis XIV, devant le roi.
1780.
Villette montre cette grande gamelle circulaire, légèrement concave, captant les rayons du soleil. Et Louis XIV, très intéressé, donc s'est fait faire la démonstration, certes, puisqu'on a la réflexion de cette chaleur du soleil permettait d'allumer, entre autres, d'un seul coup d'un seul, du bois vert, mais il s'est rendu compte de son intérêt, il l'a acheté, il l'a donné à l'Académie et il l'a versé à l'Académie des sciences. De la même manière, plus tard, Marie-Antoinette, quand on lui présente la tympanon, cette très jolie dame qui est en train de jouer avec deux petits maillets sur l'instrument de musique qui s'appelle un tympanon, qui est en fait le système de cordes comme un clavecin, sauf que ce ne sont pas, il n'y a pas de clavier, c'est simplement les petits maillets. La reine aussi l'achète et donne cette tympanon à l'Académie. Donc on voit bien la démonstration, la présentation à la cour. Et l'intérêt que la cour, roi ou la reine, en l'occurrence, lui porte et en fait vraiment un don, en l'occurrence, à l'Académie des sciences, le haut lieu de la science.
Bien sûr. Alors, ce que cette exposition montre enfin, et c'est une des dernières choses, c'est que ces deux princes qu'ont été Louis XV et Louis XV et Louis XVI se sont adonnés eux-mêmes aux sciences.
Oui, Louis XV était très intéressé par par le mécanisme, les microscopes. Évidemment, il y a la fameuse, l'intérêt de Louis XV pour la fameuse pendule de passement. Passement qui a mis plus de près de 30 ans à mettre au point un système où tous les mouvements solaires des planètes, du calendrier, des mouvements de la Lune sont entièrement actionnés sur un seul axe d'acier central. Mm-hmm. Une prouesse technique extraordinaire. Et là aussi, elle est présentée, il la présente au roi. Le roi, non seulement s'y intéresse, mais commande aussitôt au sculpteur Caffieri ce qu'il appelle une boîte en bronze doré, qui est un chef-d'œuvre de sculpture.
Magnifique.
L'achète et le fait installer à Versailles, où cette pendule est toujours encore là et visible lorsque vous visitez les appartements.
Vous nous avez aussi permis de voir les cartes de Cassini, la montgolfière des frères Montgolfier.
Une grande expérience, oui, un des grands moments du règne de Louis XVI, où la cour, les ambassadeurs, le peuple, tout le monde était là pour admirer cette prouesse technique.
Nous conclurons cette émission en disant, Catherine Armingeon, que cette exposition finie, des milliers de chantiers ont été ouverts par elle. Et c'est ce qui me paraît sans doute le plus intéressant dans cette exposition. Ce n'était pas simplement un spectacle, mais c'était aussi, d'un point de vue historique, des tas de pistes que vous avez ouvertes.
Oui, vous avez raison. On pourrait faire, sur chaque thème scientifique, on pourrait faire une exposition en soi. Ça, c'est certain. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Mais c'était un beau début.
Un très beau début. Et je vous remercie beaucoup pour cette exposition et pour son exploitation possible.
Ah oui, mais nous n'y manquerons pas. Et je pense que le château de Versailles a beaucoup de projets à cet égard.
Parfait. Catherine Armingeon, je vous remercie. Je rappelle que le numéro de Raison présente, numéro 177, porte précisément ce mois-ci sur la médiation culturelle et nous sommes au cœur de cette interrogation. Donc je renvoie avec plaisir au numéro 177 de la revue Raison présente. Je rappelle également que le colloque de l'Union rationaliste a eu lieu au début de ce mois au Collège de France, le 8 avril, et qu'il portait cette année sur les thèmes rationalisme, laïcité et société. Je vous dis au mois prochain et je remercie Brigitte Mazir et Stéphane Desmonts qui ont rendu possible cette émission. Au mois prochain.